L'incontournable radio.
106.9 Mauricie.
Attendez-vous à plus. Des sujets qui vous touchent et qui vous font réagir. Une vue d'ensemble de l'actualité. Midi plus. Voici Robert Pilote.
Il est 13h10 minutes. Bonjour et bienvenue à la météo. On va faire le bilan tantôt de ce qui est prévu, mais il y a de l'orage dans l'air pour la région de la Mauricie et du centre du Québec. Lorsqu'on vous parle des routes, toujours très réactif. Des gens, tu circules sur les routes, tu as une voiture, tu ne veux pas la briser. C'est-tu assez décourageant de se promener sur les routes puis à un moment donné de tomber là, dans une espèce de champ de mine là, c'est désagréable, c'est pas le fun. Surtout que Suzanne, de ce temps-là, je me promène avec une voiture hybride. Et au début, c'est de l'électricité. Mm-hmm. C'est zen. J'ai découvert ça, là. C'est zen, c'est un moteur électrique.
Pas de bruit de moteur.
Il n'y a pas de bruit de moteur. Il n'y a pas de, surtout de vibration. Ouais. Ou pas beaucoup de vibration. Fait que ça décolle en douceur. Mais là, quand tu arrives dans un champ de mine...
Tu l'entends bien. Tu entends bien les nids de poules.
Je me retrouve avec au point de départ avec une voiture qui me fait passer un bien mauvais quart d'heure.
Donc, tu n'as plus ta zézette, Robert. C'est terminé,
Non, un instant.
Ça serait pire en zézette. Quoi, tu peux les contourner plus facilement.
La zézette, puis tu roules moins vite aussi. La zézette, un instant. On pourra toujours observer le Bob Pilote en zézette quelque part cet été sur le territoire québécois. Je me promets quelques belles balades.
Tu
ne
fais pas le tour de Gaspésie en zézette, toujours?
Non. ça prend du temps pour faire ça. À 49 km à l'heure. Oui. Mais peut-être que je vais me balader en moto. Tu sais que j'ai nouvellement acquis un permis pour conduire une moto. Là, je ne suis pas encore tout à fait autonome, là, mais je peux. La loi a changé. Alors, depuis cette année... Lorsque tu as ton permis de temporaire, si tu veux, on va appeler ça comme ça, tu peux te balader tout seul à moto. Tu n'as pas le droit de faire monter quelqu'un sur ta moto. Fait que si je voudrais partir là, sur les routes du monde, road trip avec mon amoureuse, je ne peux pas le faire tout de suite. Okay? Parce qu'il y a un deuxième test à passer. Je pense que c'est tolérance zéro pour l'alcool et puis pas le droit de conduire la moto entre minuit et 6 heures le matin. Ça devrait être correct. Normalement, j'essaie de dormir. Ça devrait être correct. Donc, Zézette et moto pour l'été. Il y a un message qu'un auditeur a mis sur Facebook. C'est Claude. J'ai mis sur Facebook ce matin. « Salut tout le monde. Je n'ai pas de temps, mais une chose me tient à cœur. L'argent qu'on met sur nos routes qui sont toujours à refaire. » Que diriez-vous de nous mettre tous ensemble, de former un groupe qui demanderait que dès qu'une route serait refaite, que nous mettions au début de la section à refaire un panneau qui resterait là et qui indiquerait le nom du contracteur, la date de la fin des travaux, le budget mis sur le tronçon. Ce panneau resterait là tout le temps, de telle sorte que les centaines d'automobilistes qui passeraient par là pourraient voir, au cours des années, la qualité et la durabilité des travaux qui ont été faits. Est-ce que vous êtes partant?
Je trouve pas ça bête.
Pas bête, hein? Le coût, tu sais, l'année. Là, tu vois le niveau de dégradation. Puis effectivement, on pourrait noter les contracteurs comme on le fait pour les Airbnb.
Oui, ou les restaurants.
Ou les restaurants, effectivement. L'actualité, Marc-Antoine.
Oui, la ville de Trois-Rivières, tu en parlais, va investir 11 millions de dollars dans la réfection de ses rues durant la prochaine période estivale. Une quarantaine de chantiers ont été ciblés, dont celui à l'intersection du boulevard Hamelin et de la rue Luigi-Amador, où avait lieu la conférence de presse ce matin. Le maire Jean Lamarche affirme que l'ampleur des travaux à réaliser dans les prochaines années justifie la hausse de 8 à 11 millions de dollars annoncée il y a quelques semaines.
Il y a du chemin à faire. Je pense aussi que les nouvelles réalités climatiques font en sorte qu'on doit intervenir. Puis aussi, il y a un plan qui a été conçu, un plan qui s'étale sur 5 ou 10 ans, qui nous permet là, non seulement de redresser, mais de stabiliser la situation de nos routes en Trois-Rivières.
C'est drôle, sans trop le vouloir, il a inventé un beau slogan.
C'est-à-dire?
T'as pas compris au début de sa cote?
J'ai pas prêté attention au
Parce
début.
Que là, ils vont repaver, là. Ils ont décidé de mettre, au lieu de mettre 8 millions, ils vont mettre 11 millions. Puis t'as pas entendu comment il a commencé l'extrait?
On peut réécouter.
Regarde, ça peut faire un excellent slogan pour une campagne de publicité. Réécoute ça.
ça sera pas bien long, je vais aller rechercher.
C'est Jean Lamarche, c'est le maire de Trois-Rivières.
Allons-y.
Il y a du chemin à faire. Je pense que c'est
clair. C'est bon, ça?
C'est bon.
Il y a du chemin à faire. Et on pourrait même dire du chemin à faire et à refaire. Ailleurs dans l'actualité.
Le maire de Saint-Élie-de-Caxton, Robert Gauthier, tu lui as parlé un peu plus tôt dans cette émission. Eh bien, il voit d'un bon œil le début de la saison touristique. Les carrioles pourront circuler librement dans la municipalité à partir du 3 juillet prochain. Et c'est également Fred Pellerin qui assurera la narration des contes dans son village d'origine. Pour ce qui est d'une éventuelle salle de spectacle à Saint-Élie-de-Caxton, le maire Robert Gauthier se dit toujours prêt à appuyer les nouveaux projets.
Si jamais Fred veut revenir avec ce projet-là ou un autre projet, nous, la municipalité, on est là pour appuyer. Bien sûr, on est initiateur au niveau touristique des balades et de ce qui existe présentement, mais on a aussi un rôle d'appui à tout ce qui bouge puis qui se fait à Saint-Élie. Puis ça nous fait toujours plaisir parce qu'on travaille avec le même objectif qui est de développer Saint-Élie.
Vous l'aurez peut-être aperçu en passant au centre-ville, il y a une réplique du navire de Christophe Colomb de 1492, la Santa Maria, qui se trouve présentement au port de Trois-Rivières. L'équipage a fait la demande hier d'accoster au port durant quelques heures afin de mener des travaux d'entretien. Le navire venu d'Espagne a pour destination finale Rochester aux États-Unis, où se déroule une grande exposition maritime.
Je pense que tu as mis une photo sur le Facebook.
Oui, les deux photos sont présentes
c'est
sur
vraiment
la page du 106.9 Maurice.
C'était pour l'époque très, très ingénieux et c'est quasiment devenu des œuvres d'art. Allez voir ça si vous avez la chance. Tu as dit qu'il est là jusqu'à quand?
Il est là durant 24 heures, donc.
24 heures. Bon, ben dépêchez-vous, là, passez par le centre-ville. Allez prendre un petit pot, là, quelque part, ou une petite bouffe dans le centre-ville de Trois-Rivières. Allez voir ça. Ça vaut le déplacement.
Et finalement, le chef du Parti conservateur, Andrew Scheer, présentera sa vision environnementale en fin d'après-midi à Gatineau. Et déjà, des membres du gouvernement Trudeau la discréditent. C'est le cas notamment de la ministre Mélanie Joly.
Je pense qu'il n'y a pas de crédibilité au niveau du plan de lutte contre les changements climatiques. La première chose que Harper a fait lorsqu'il a eu la majorité, ça a été de se sortir du protocole de Kyoto, alors que c'était un engagement fondamental du Canada au niveau international.
Alors voilà, Robert, pour plus de nouvelles, on visite le 106.9fm.ca, section nouvelles.
Dans le Journal de Montréal aujourd'hui, puis on poursuivit là, toute une série d'articles sur la détérioration de notre réseau routier. Et il parle du déficit d'entretien du réseau routier québécois qui se situe à 16 milliards de dollars. C'est énorme, c'est énorme. Et plus on laisse aller les choses, plus ça va coûter cher pour les réparer. Il n'y a pas que le pavage, hein, non. On a beau parler de nid de poule, il n'y a pas que le pavage. Il y a les ponceaux, les ponts à entretenir. Bon, dans certains cas, des voies ferrées qui passent au-dessus des routes de notre belle grande ville à Trois-Rivières, entre autres, puis c'est le cas dans le centre-ville où il y a des trains qui passent. Bref, on est mal barré, puis il va falloir qu'on y voie avant que le réseau tombe en ruine. On va s'arrêter quelques instants. Non, bien, je vais te parler de météo.
Oui, absolument.
Je pense que c'est important. Tu regarderas vers le ciel, ça va s'assombrir.
Au courant de la journée?
Je te dirais même au cours de l'après-midi. Lorsqu'il y a le bandeau jaune ici, Environnement Canada nous prévient qu'il y a une veille d'orage violent. Là, c'est nuageux, ça se réchauffe. T'es allé dehors?
C'est plutôt frais, je te dirais.
C'est frais?
Oui, bien, c'est correct.
OK. Parce que là, on prévoyait... Là, on est rendu à 20 degrés, gars, je l'ai ici. On prévoit 24 degrés, mais ça va devenir plus chaud. L'humidex va monter à 28 degrés. Ça va nous amener du temps instable. Donc, risque d'orage quelque part cet après-midi. Ce soir et cette nuit, généralement nuageux, 60 % de probabilité d'averse. Risque d'un orage tôt ce soir. Il y aura même des nappes de brouillard pour ceux qui vont voyager plus tard. Vous serez prévenus. Demain, jeudi, généralement nuageux. Vendredi, alternant soleil-nuage. Et la bonne nouvelle, c'est que pour le long congé de la fête du Québec, de la fête des Québécois, de notre fête nationale, ce sera du soleil pour samedi, dimanche, lundi et probablement mardi. Au centre-ville, je le répète, à Trois-Rivières, on a 20 degrés.
Des sujets qui vous touchent et qui vous font réagir. Voici Robert Pilote.
Stéphane Viau, observateur de la scène politique, le mercredi avec nous autres. Allô, Stéphane.
Salut Robert.
Alors, l'heure des bilans a sonné pour les partis politiques. Il y en a qui vont s'en aller en élection. C'est le cas des libéraux de Justin Trudeau. On verra bien comment ça va se passer. Au Québec, la CAQ a mis un terme à cette session parlementaire. Quelle note tu donnes à ce gouvernement?
Écoute, pour une première session, je lui donne un A. Mais juste avant de rentrer dans les détails, Robert, juste mentionner une chose. Je voulais dire que j'ai fait une chronique au lendemain des élections et on m'avait posé la question la suivante, autrement dit, l'usure du Parti libéral au pouvoir finalement a favorisé la CAQ. Et finalement, j'avais eu raison, j'avais répondu non, je ne dis pas du tout, je disais à mon avis, je pense que c'est l'usure du régime libéralo-péquiste qui a duré 50 ans de temps. Et là, il y a un sondage qui est sorti récemment de Forum Research qui place la CAQ en première position, mais qui place Québec solidaire en deuxième position. Donc, les deux autres partis sont rendus en troisième et en quatrième place.
Ah non, mais donc, ça, c'est incroyable. Juste, on ouvre la parenthèse rapidement. Oui. C'est incroyable de voir Québec solidaire devant les libéraux. Moi, là,
oui.
Quand j'ai vu le sondage cette semaine, hier ou avant-hier, je me suis pincé.
Bien, moi, je suis convaincu. Je l'avais mentionné durant les élections. Et je demeure convaincu qu'on a assisté à un réalignement politique complet, là. D'abord, il y a eu un changement de paradigme. Hein. On a été longtemps dans le paradigme souverainiste fédéraliste. Maintenant, on est plus dans le paradigme multiculturaliste identitaire. Et les deux partis qui se sont bien positionnés, bon, les libéraux se sont pas mal positionnés du côté multiculturaliste, mais ils ont aussi un passé de gouvernance à traîner avec eux, ce qui n'est pas le cas de Québec solidaire. Donc, Québec solidaire s'est bien positionné du côté multiculturaliste. Évidemment, la CAQ, en particulier avec le projet de loi 21, la loi 21 maintenant, devrait dire, se sont positionnés du côté identitaire. Mais je le donne un A parce que, d'abord, la réaction de la majorité des gens, on le voit sur les réseaux sociaux, etc., c'est assez positif dans l'ensemble. Ça a comme donné une espèce de vent de fraîcheur. C'est un gouvernement aussi qui a l'intention de livrer ses promesses. Il a fait cette démonstration-là dès la première session. Là. Tu sais, souvent, les débuts de mandat, là, si tu veux abandonner des promesses, c'est le meilleur moment pour le faire parce que ça ne sera plus le temps dans 4 ans avant de retourner en élection. Tu sais, on dit souvent, au début du mandat, tous tes mauvais coups, fais-les là, puis après ça, fais des bons coups. Mais en partant, tout de suite, ils ont placé l'agenda. L'agenda est relativement identique avec ce qui avait été promis en campagne électorale. Hein. Évidemment, tout ce qui touche l'identité, l'immigration, mais aussi l'éducation. Il y a des budgets qui ont été débloqués, il y a des écoles qui vont être construites. On va faire de la place pour les maternelles 4 ans. En santé, Madame la ministre McCann, assez impressionnant là, jusqu'à maintenant. Là, elle profite du fait qu'elle a eu un bulldozer qui l'a précédé. Donc, les attentes tabassent, mais en même temps, tu sais, une entente pour déléguer des actes aux infirmières spécialisées, aux pharmaciens, etc. On voit que c'est en mouvement. Là. Il va y avoir des changements importants et probablement qu'on va finir par avoir une première ligne plus efficace. Somme toute, pour une première session, je le donne un A. Il y a aussi, il y a des révélations, et il y a des ministres qu'on attendait beaucoup d'eux qui finalement on réalise qu'ils étaient meilleurs à l'opposition qu'au pouvoir. Ça, c'est souvent le cas. Hein. Il y en a qui sont très bons à l'opposition, très mauvais au pouvoir, et vice-versa. Il y en a qui sont très bons au pouvoir et très mauvais à l'opposition. Dans le cas de la CAQ, deux ministres en particulier, le Nathalie Roy, qui s'était très démarquée quand elle était à l'opposition. On peut dire qu'avec la culture jusqu'à date, première session, là, je donne même pas la note de passage. Là. Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a eu comme projet qui était déposé jusqu'à maintenant? À peu près rien, là, à part des belles paroles, puis des belles visites, puis ça, là, mais il n'y a pas grand-chose qui s'est passé. Le deuxième, c'est Éric Kerr. Les attentes étaient plus hautes. Éric Kerr, qui était un bulldozer à l'opposition, etc., on s'attendait à ce qu'il prenne plus de place. D'accord, il n'y a pas le ministère le plus visible, hein, tout ce qui touche l'informatique, mais quand même, tu sais. Alors, jusqu'à date, ces deux-là se sont révélés plus faibles que les attentes. Puis je disais aussi, il y en a des fois qui sont bons au pouvoir, mais pas à l'opposition. L'inverse, là, on peut dire que l'État-O, c'est le cas. Là. L'État-O était excellent comme ministre des Finances, mais depuis qu'il est à l'opposition, c'est pas le plus tranquille. Gros bulldog là, du côté des libéraux. Là.
Tranquille. Alors, ils ont du travail à faire. Merci Stéphane, je te souhaite de passer belle fin de journée.
Ça département aussi. Bye-bye.
Voilà, Stéphane Viau, commentateur de l'actualité politique. Une courte pause. Écoute, on tente d'établir la communication avec Vancouver. C'est fort possible qu'on puisse discuter avec Martin McGuire, notre collègue. Le Canadien va peut-être échapper Hudon. C'est ça, c'est une très mauvaise nouvelle. On a appris que le repêchage de la Ligue nationale de hockey aura lieu à Montréal en 2020. Hein, peut-être.
Il y a
des fortes possibilités. Et que le Canadien est intéressé par un défenseur gaucher. Ces nouvelles pour le Canadien et bien d'autres après la pause.